Si on fait un culte de Pâques le samedi, parce que traditionnellement c'est le dimanche, on ne pouvait pas le faire le dimanche, peu importe. Alors les frères et sœurs m'ont dit non, bien entendu, et puis on a célébré également le Seigneur. Mais je me suis laissé interpeller par ce samedi. Alors, bien entendu, on a cette semaine pascale, hein, traditionnellement. Alors, ça dépend aussi des interprétations, si on voit du calendrier juif ou chrétien, etc. Mais traditionnellement, hein, le jeudi soir, c'est ce moment où on partira de notre texte ce matin, où Jésus institue la Sainte Cène. Ensuite, il y a le vendredi de Pâques, où il est crucifié. Il y a le dimanche de Pâques, c'est la résurrection. Et puis entre les deux, il y a le samedi. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, pour pas trop se compliquer les choses ce matin. Et je pose la question, mais où étaient les disciples le samedi? Dans quel état d'esprit ils étaient ce fameux samedi? À quoi ils pensaient? Quelles étaient leurs émotions? Quels étaient leurs sentiments entre ce moment où Jésus donne sa vie et livrée sur cette croix, et puis ils ne le savent pas encore, hein? Nous, on le sait, mais c'est le moment de la résurrection. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu dans l'Écriture ce qui nous est dit de ses disciples ce fameux samedi, pourtant 3 ans avec le Maître, hein, 3 ans étant enseigné pratiquement jour et nuit, et ce samedi, où sont-ils? Dans quel état d'esprit sont-ils? Vous vous en souvenez? Où sont-ils nos disciples? Quels sont leurs sentiments? Qu'est-ce qui les anime à l'intérieur? Ben, la Bible nous dit que par crainte des Juifs, hein, ils s'étaient enfermés. Ils s'étaient enfermés, hein, et Jésus, bien sûr, leur est apparu. Et ça m'a fait penser, réfléchir, c'est que parfois même, connaissant le Seigneur depuis des années, il y a des circonstances dans nos vies, on les a entendues, où finalement bien, tout devient ténèbre, tout devient obscur, on s'enferme, on se replie. Ce n'est pas qu'on veuille trahir ou s'enfuir de Jésus, mais on est humain et tous ces sentiments se bousculent. Et parfois, avec ces sentiments, il y a un grand sentiment de culpabilité, de honte. On se dit, Seigneur, mais et peut-être que ce matin, quelqu'un est venu. Pourtant, vous connaissez le Seigneur, ça fait des années, et vous êtes comme ses disciples, ce samedi, repliés sur vous-même, apeurés pour toutes sortes de circonstances, légitimes ou pas, peu importe. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime, nous accueille et nous connaît. Amen. Et quels que soient nos sentiments, nos émotions ce matin, nous sommes dans sa présence. Et j'aimerais nous rappeler rapidement ce que signifie Pâques. J'ai relu les 4 évangiles et à travers ces 4 évangiles, j'ai retiré ce qui était noté le plus souvent dans ces 4 évangiles. Voilà. Et il y a 3 points qui ressortent, on va en parler ce matin. Le premier est étonnant parce que moi-même, souvent, c'est pas qu'on est passé à côté, mais ça m'a pas interpellé. Et pourtant, c'est le seul événement qui est rapporté dans les 4 évangiles concernant cette institution de Sainte-Cène. On aurait pu croire que dans les 4 évangiles, il est question de Jésus qui institue la Cène. Alors, pourquoi la Cène, hein? Ça vient du latin « cena », voilà. Et ça veut dire simplement souper, ça veut dire simplement repas qui est partagé. Voilà. Et nous, on appelait ensuite la Cène la Sainte Cène. Mais ce n'est pas l'élément qu'on retrouve dans les 4 évangiles. L'élément qu'on retrouve dans les 4 évangiles, eh bien, il va peut-être... On va relire quelques textes. Le premier, c'est dans Matthieu 26, 20-26. On ne va pas relire tous les textes, mais vous pourrez les relire en parallèle. Le premier élément qui revient dans les 4 évangiles, qui est associé à la Pâque, et ce qui deviendra pour nous les Pâques, c'est la trahison de Judas. C'est la trahison de Judas. On va en parler quelques instants. On va juste lire peut-être Matthieu 26, 20, mais vous referez la lecture, si vous voulez, vous-même, dans les autres évangiles, Marc 14, Luc 22 et Jean 13. À chaque fois, il est question de cette trahison. Matthieu 26, verset 20, nous dit ceci. Matthieu 26, verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira ». Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et il dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Et dans les autres évangiles, dans les trois autres évangiles, on a à nouveau le même récit, en tout cas la même annonce de la trahison de Judas qui va être associée à Pâques, qui va être associée à ce repas particulier. En tout cas, tous ces écrits dépeignent, imaginez un petit peu l'ambiance qui va régner dans ce repas. Lorsque Jésus annonce au début de ce repas, ce cheder, on verra tout à l'heure son déroulement, annonce eh bien, que quelqu'un va trahir, quelqu'un va le trahir. Ils sont 12. Et chacun se pose la question et pose la question publiquement, est-ce moi ? C'est une parole de Jésus qui est incompréhensible, inattendue et qui est cruelle. Comment pendant 3 ans et demi, quelqu'un qui a suivi Jésus peut à un moment donné arriver à le trahir ? Il y a une ambiance, j'allais dire, terrible de ténèbres qui pèse déjà sur ce repas. Parce que bien quelqu'un va le trahir et là on découvre, hein, en tout cas à nouveau, bien que Judas va confirmer cette trahison. Et pourtant, il y a au-delà des ténèbres, il y a une douleur, un déchirement aussi dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas simplement une prophétie qui s'accomplit, mais il y a dans le cœur de Jésus bien cet amour qui malgré tout ne varie pas. On se souvient que c'est Jésus qui a choisi Judas comme les autres disciples, qui va l'associer à quelqu'un d'autre pour aller deux par deux prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons et guérir les malades. Et on peut se demander, mais qu'est-il arrivé à Judas pour en arriver à une telle expression de trahison ? En tout cas, d'une manière générale, ce matin, Pâques, c'est ce moment, ce temps dans nos vies où les cœurs se révèlent, les cœurs s'ouvrent. Certains acceptent, d'autres refusent de suivre et de servir Jésus. C'est un moment où les cœurs se positionnent en faveur ou non du Sauveur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, on est tout près de la Suisse. Hier, on a été faire des courses en Suisse. Et c'est la première fois qu'on se faisait arrêter par une douanière impérative. Elle m'a dit quelque chose, je pense, en allemand. Je n'ai pas très bien compris. Et je lui dis en bon français, comme un bon français... On va à Migros acheter un petit peu de nourriture. Alors, je ne sais pas si elle m'a compris, etc. Hein, mais elle m'a dit, allez hop, passez. Voilà. Mais en Suisse, hein, on est neutre. Voilà, chez les Normands, j'espère qu'il n'y a pas de Normands ici. Hein, c'est peut-être bien cuit, peut-être bien que non. Voilà, bon, hein, c'est ce qu'on dit, Jessica, non ? Non. Non, c'est peut-être bien que non. Mais avec Jésus, on est pour ou où on est contre. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, bien, il est contre moi, celui qui n'assemble pas, il disperse, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce temps de Pâques que nous vivons, c'est un temps aussi où nos cœurs se positionnent, se repositionnent envers notre Sauveur. Et en tout cas, pour Judas, c'est une nuit terrible. C'est une nuit terrible. Et cela va avoir des conséquences pour lui. On les connaît, ces conséquences. Hein. Il va trahir Jésus pour quelques pièces d'argent. Et puis ensuite, eh bien, il va aller se pendre. La vie de cet homme est terrible. Mais juste après, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que Judas ne participera pas à la scène. Tout à l'heure, en tant que croyant, parce qu'un jour, nous avons confessé le nom de Jésus dans les eaux du baptême, eh bien, nous allons participer à la scène. Judas n'a pas participé à la scène. Vous relirez les Écritures, il est dit qu'une fois que Jésus lui a donné le morceau, hein, dans ce repas, dans ce cheder, il y a un moment donné où on prend du pain azime et puis on sauce le pain. Et c'est à ce moment-là, au début de ce repas, bien que Jésus va donner ce morceau à Judas, il est dit qu'à ce moment-là, dès que Jésus va donner et que Judas va prendre le morceau, il va sortir, Judas va sortir, Satan va entrer en lui et il va sortir de la pièce. La conséquence est terrible, c'est que Judas ne participera pas à la scène. Par sa prise de position contre Christ, eh bien, il se prive du salut. Il se prive lui-même du salut et il se détourne de la grâce de Dieu. La porte du ciel eh bien, se ferme pour lui. Quelle nuit terrible pour lui. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que l'exemple de Judas nous enseigne. L'exemple de Judas nous interpelle. Voire peut-être peut nous avertir, lui dire « Oh là là, mais est-ce que je ne suis pas en train de trahir Jésus ?» Mais je dis que l'exemple de Judas nous rassure également. Pourquoi ? Parce que Pierre, qui va lui aussi trahir Jésus après, eh bien, Pierre participera à la Sainte Cène. Pierre sera autour de la table pour participer à la Sainte Cène. Et alors, on peut se dire, mais quelle est la différence entre ces deux hommes, Judas qui trahit, et puis, quelque part, Pierre aussi. Il y en a un qui s'exclut, il y en a un qui ne sera pas autour de la Sainte Cène, et puis bien Pierre qui sera accepté. Dans Luc 6, 16, il y a ce texte qui nous rappelle ceci concernant Judas. Il nous est dit que Judas va devenir traître. Il devint traître. Il y a une idée de progression. Il y a une idée là aussi où petit à petit, eh bien Judas qui commence comme les autres à suivre Jésus, eh bien s'aperçoit que finalement Jésus n'est pas dans son image, n'est pas dans sa conception. Pour lui, il aurait souhaité que Jésus fasse prendre les armes au peuple et puis booste les Romains dehors, mais ce n'est pas du tout le message de Jésus. Et alors, au fil des mois, au fil des années, eh bien, dans le cœur de Judas va naître de l'amertume, et puis cette trahison qui va... Judas va devenir traître. Alors que Pierre, on le connaît un petit peu, hein. Pierre, c'est plutôt le caractère fougueux, impulsif, il aime le Seigneur, il est prêt à tout pour lui, même des exploits qu'il ne pourra pas mettre, bien sûr, en œuvre. Mais Pierre, lui, n'a aucune pensée de trahir, hein, ce qu'il veut. Il veut servir malencontreusement. Pierre aura besoin d'apprendre, bien sûr, que ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Jésus et le suivre. C'est par sa grâce qu'on peut le suivre, pas par nos propres forces. Et Pierre va le comprendre, va l'accepter, va le vivre. Ce que j'aimerais dire ce matin... c'est que peut-être il y a quelqu'un qui se dit je suis indigne, j'ai l'impression d'avoir trahi Jésus et je ne suis pas digne de m'approcher de la Sainte Cène, je ne suis plus digne de le prier, je ne suis plus digne de l'invoquer. La Bible nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que nous ne choisissons pas délibérément de pécher. Ça veut dire que consciemment je ne souhaite pas, je ne veux pas trahir Jésus. Et Paul va résumer ceci, il dira mais j'ai la volonté de, mais j'en ai pas le pouvoir. Et il nous arrive de chuter, il nous arrive de pécher, il nous arrive encore, comme Pierre, de pleurer amèrement sur notre misère. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus nous acceptera toujours dans sa présence. Pour nous qui l'avons confessé dans les eaux du baptême, autour de la Sainte Cène, un moment fort où il nous dit, bien, je vous aime. Et quelques versets qui peuvent nous aider ce matin, 2 Timothée 2,13. Ce beau verset, si nous sommes infidèles, et moi j'ajoute toujours entre parenthèses, c'est mon commentaire à moi, j'ajoute rien à l'écriture, hein, mais c'est mon petit commentaire, et nous le sommes, et je le suis infidèle. La suite nous dit, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Oui, ce matin nous sommes infidèles, oui, parfois nous renions, nous trahissons, nous ne voulons pas. Mais il ne peut se renier lui-même. Romains 8, 35, on a lu hein, ces versets. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Ouais, qui pourra ? Et puis, 1 Thessaloniciens 5, 23, ce beau verset qui nous encourage, qui nous rappelle que notre sanctification, bien, Jésus là aussi nous y accompagne. Hein, lorsque nous avons de mauvais comportements, de mauvaises pensées, une mauvaise conscience, et qu'on s'en rend compte par le Saint-Esprit, eh bien, Jésus dit ceci, que le Dieu de paix, Paul plutôt, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Waouh, s'il n'y avait pas la suite, on se gratterait la tête souvent, hein. Mais il y a la suite. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va vous y accompagner. Et ce matin, bien... bénissons le Seigneur, parce que oui, Pâques, c'est la trahison de Judas, mais ce n'est pas la nôtre. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance et nous devons dire, Seigneur, eh bien, merci, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Pâques, c'est aussi, là, et on retrouve ça dans trois évangiles, c'est aussi la souveraineté de Dieu. Dieu demeure aux commandes de tout. Dieu n'est pas déstabilisé par la trahison de Judas. Elle est même inclue dans son plan de salut. Dieu n'est pas surpris, Jésus n'est pas surpris, n'est pas décontenancé. Mais nous voulons nous rappeler ce matin, bien que les trois évangélistes, eh bien, ont, repris cette pensée, et à travers ces trois textes, on ne va pas les lire, peut-être le premier, Matthieu 26, 18, où il n'est question d'un tel. Hein, et je pense que Matthieu a peut-être oublié le nom de la personne que Jésus a cité. Je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé, qui regardent les épisodes de The Chosen, hein, voilà, on a Rachel qui est notre représentante là aussi, mais ils l'ont bien choisi, Matthieu, il est étonnant notre Matthieu, hein. Je ne sais pas si vous regardez il est surprenant, voilà. Hein. Et Matthieu 26, 18 rappelle ceci, c'est Jésus qui parle, il répondit « Allez à la ville chez un tel ». Et vous direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque, etc. Et puis les deux autres évangélistes nous rappellent que Pierre et Jean, Jésus leur dit, eh bien, allez, et puis là, à Jérusalem, et là, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il va, vous direz au maître, eh bien, voilà, le maître te demande de préparer la Pâque ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ses disciples sont entrés dans des œuvres que Jésus avait préparées d'avance. Ça veut dire que tout simplement, bien, ses disciples ont obéi à la parole de Jésus. Et ces hommes, eh bien, ont vu que Jésus lui-même avait préparé le cœur de quelqu'un, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, eh bien, c'était prêt. Et il y a des moments dans nos vies où on a besoin de paroles de Dieu pour être conduit assurément. Pour avoir une direction. Ici, cette préparation, elle est préparée, elle est révélée par une parole de Jésus, par sa parole. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut plus que toute autre chose nous enseigner, nous révéler la volonté de son Père. Et parfois, on a besoin de paroles très précises, très précises. Allez à la ville chez un tel. Hein ? On se souvient d'Ananias aussi, qui a dans une vision, avoir l'adresse très précise, c'était mieux que le GPS à l'époque. Eh oui, c'était le GPS avant l'heure. Hein, Jésus a dit à Ananias, tu vas dans cette rue qu'on appelle la droite, et là tu vas à cette maison, et là tu trouveras un homme, Saul de Tarse, qui prie. Quelle précision. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin d'une parole de Dieu pour que vous soyez rassurés, pour qu'il y ait une direction bien. Pâques nous rappelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il nous devance, il nous dépasse, il nous déconcerte. Mais il est souverain dans tout ce qu'il est et toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Cette parole, elle est précise et on vient de le voir. Et puis, elle est aussi surprenante, cette parole. Alors nous, dans notre contexte, 2000 ans après, etc., bon, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le bien dans la maison où il entrera, etc. Bon, on se dit, bah ouais, c'est. Voilà, c'est. Hein, bon. Sauf que, dans la culture de l'époque, ce n'est pas le travail d'un homme. Et les cruches d'eau, ce sont les dames. Ce sont les dames qui, là aussi, bien, s'en chargent. Et c'est quelque chose qui est surprenant, qui est étonnant, mais que les disciples ne peuvent pas rater. C'est quelque chose qui les dépasse. Mais ils ne peuvent pas rater. Il n'y avait pas 10 hommes à ce moment-là qui allaient avec une cruche. Il y en avait qu'un. Dans cette culture à l'époque, ce n'était pas le travail d'un homme. Et j'aime bien Genèse 18, 14. Je ne sais pas s'il est là, mais vous rappelez ce contexte. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Le contexte de cette parole, c'est la stérilité, on le sait, de Sarah, et à un âge très, très, très avancé, eh bien, on sait que, malgré tout, Sarah va accoucher. Y a-t-il quelque chose qui soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Pas que c'est ça. On a entendu ce témoignage. Vous avez reçu également sur le groupe de l'Église, hein, pas la conclusion, mais de Calvin. Hein, comment et j'ai bien aimé cette sœur qui a dit ceci. Elle ne le savait pas, mais il y a 40 jours, ça fait 40 jours qu'elle avait déclenché ce groupe de prière sur WhatsApp. Elle a dit, il a fallu 40 jours de prière, de jeûne, d'intercession, de combat, de ténèbres, parce qu'il y a 40 jours, on donnait 72 heures à vivre à mon enfant. J'ai trouvé cette réalité spirituelle entre cette intensité dans le combat spirituel de 40 jours pour 72 heures de vie. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Rien. Ce matin, Pâques, c'est la souveraineté absolue de notre Dieu. Amen. Et puis certains ont vu dans cet homme à la cruche d'eau bien une image du Saint-Esprit. Pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas. Hein, le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus et qui nous maintient, qui nous conduit Dans la maison du Père,
oui.
Mais en tout cas, que ce matin, eh bien, nous soyons rassurés et assurés de la souveraineté de notre Dieu. Et puis je termine, et puis Pâques, bien sûr, bien. Alors j'ai mis une longue phrase pour un coup, hein. C'est l'accomplissement prophétique du salut éternel promis par Dieu depuis toute éternité. Voilà. Je la relis parce que je me suis surpris moi-même. Hein. Non, je plaisante. Parce que des fois, j'aime bien. Mais celle-là, qu'est-ce que vous voulez raccourcir ? Pâques, c'est l'accomplissement prophétique du salut éternel promis par Dieu depuis toute éternité. J'ai insisté sur l'éternité. Hein. En tout cas, dans trois évangiles, eh bien, on retrouve justement l'institution de la Sainte Cène. Et on va en parler avant de la prendre, nous qui sommes baptisés ce matin, qui avons confessé le beau nom de Jésus. Dans la tradition juive, bien sûr, de l'époque, vous le savez, hein, la Pâque rappelle à ce peuple la manière dont Dieu, de manière miraculeuse, surnaturelle, a délivré son peuple hein, de l'esclavage, 430 ans en Égypte, etc. On connaît bien sûr cette histoire. Et puis de cette nuit, on parlait tout à l'heure de la trahison de Judas, mais une nuit quand même terrifiante, où parce que le cœur de Pharaon s'était endurci, eh bien, il va y avoir cette dixième plaie qui est terrible, la mort des premiers-nés. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Jusqu'au premier-né des animaux. Et là, bien, il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est que dans toutes ces maisons où les Hébreux sont réfugiés, en famille, où on va sacrifier un agneau, on va mettre le sang sur le linteau, sur les deux montants. Et littéralement, bien, lorsque l'ange exterminateur va venir et voir le sang, quand je verrai le sang, dit Dieu, eh bien, je passerai au-dessus. En anglais, hein, c'est « pass over », Pâques, c'est passer littéralement au-dessus. Le sang de Jésus nous purifie, nous garde ce matin. Amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et seuls, bien sûr, seront épargnés les Hébreux, et puis aussi toutes les familles qui seront réfugiées à l'intérieur. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Alors le repas du Cheder, hein, c'est ce qu'on appelle traditionnellement ce repas, il commençait par une bénédiction inaugurale. En général, c'était le chef de famille. Et puis, il y avait une prière. Et ensuite, on buvait une première coupe de vin. Et puis, en même temps, il y avait justement dans ce plat d'herbes avec de la sauce, eh bien, on trempait le pain. Et c'est à ce moment-là que Jésus eh bien, va donner le pain à Judas et qu'il va sortir. C'est au début du repas. Parce qu'ensuite, il y a quatre coupes. Il y a quatre coupes. Alors, on ne sait pas très bien à quel moment ensuite, au niveau des coupes, Jésus va présenter cette coupe comme son sang, mais à cette première étape, eh bien, ça y est, Judas est sorti. Il se prive, il trahit. Mais Pierre reste, les autres disciples restent. Hein. Et ensuite, il y a l'histoire de l'institution de la Pâque. Et en général, ce qui est étonnant, c'est parfois un enfant qui va raconter l'histoire de Pâques. Vous savez que les Hébreux avaient une tradition orale, on se transmettait oralement, et on choisit un petit enfant qui va rappeler aux plus anciens, au regard bienveillant, bien sûr, l'institution de Pâques. Transmets-le à tes enfants. Transmets-le à tes enfants. Et puis, il y avait le chant du psaume 113. Voilà. On n'a que deux psaumes aussi dans la Bible, vous le savez. On boit la deuxième coupe. Est-ce que c'est à ce moment-là que Jésus la présente ? Pourquoi pas ? Mais Judas est sorti. L'action de grâce, une troisième étape, on mange l'agneau qui est rôti avec les pains sans azyme, hein, les pains sans levain, voilà, et puis les herbes amères. Et puis il y a une prière, on boit la troisième coupe, et puis il y a un quatrième temps, hein, il y a les chants du psaume 114 à 118. Il y avait aussi un recueil de cantiques, et il y avait des cantiques qui étaient, on va dire, rituels. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais parfois, eh bien, il y a des traditions, des rites qui sont le corps vertébral aussi d'un temps de communion fraternelle. Il y a des chants qui sont solennels. Bien sûr, il y a des chants qui sont inspirés. Et ceux qui sont solennels eh bien, peuvent être aussi inspirés. Et ceux qui sont inspirés eh bien, peuvent devenir solennels. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, à chaque Pâques, voilà, c'était le rite. Et du psaume 114 à 118, eh bien, on buvait ensuite la quatrième coupe. C'est un repas qui est rituel, mais qui va être changé et qui va devenir spirituel. Et d'une manière prophétique, bien sûr, où Jésus va révéler hein, réellement qui il est. Alors, Il dira, je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, mais pour l'accomplir. Et lorsqu'on va prendre la Sainte Cène, hein, il y a ce triple sens prophétique pour nous. D'abord, Jésus qui devient l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Hein, et ça, c'est le miracle de l'œuvre de la croix ce matin pour nous, tous celles et ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui ont confiance dans l'œuvre de Christ, eh bien, ont l'assurance de la vie éternelle. Jésus devient l'agneau de Dieu. Hein, Christ qui devient notre Pâque, qui a été immolé. Hein, c'est 1 Corinthiens 5, 7 qui nous rappelle. J'ai d'autres textes. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Une libre entrée dans la présence de Dieu. Et puis, un dernier texte. « Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Et puis, il y a une deuxième pensée, c'est que désormais, bien, tous ceux qui croient dans le nom du Seigneur deviennent membres de son corps. Il en est la tête, n'oublions pas, mais hein, on fait partie de ce corps, 1 Corinthiens 12, on pourrait dire de la même famille. Et dans toute famille, vous le savez, il y a des droits et il y a des devoirs. Dans toute famille, il y a des droits et des devoirs. Hein, nos enfants ne viennent pas en se mettant les pieds sur la table, en ne débarrassant rien du tout, et puis en disant, mais écoutez, maman fait mon lit, papa répare mon vélo, et puis moi j'ai la belle vie. Il y a quelques devoirs quand même. Hein, et il y a des codes dans les familles qui sont tout à fait normales. On a des droits ce matin. Nous avons accès à la même grâce. Quel droit extraordinaire, vous vous rendez compte? On a droit aux mêmes promesses, on a droit au même esprit, on a droit à la même parole. Tout ça, ce sont les droits que Dieu nous donne dans sa famille. Et puis on a des devoirs. On dit, oh là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous devons nous soutenir, nous devons nous exhorter, nous devons nous encourager, nous devons nous bénir, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Bah, je trouve que ce sont des bons devoirs quand même. D'avoir soin les uns les autres, d'avoir soin de l'organe que nous sommes dans le corps, d'avoir soin du corps, etc. Droits et devoirs dans la famille de Dieu. Et ça nous rappelle ça, la Sainte Cène. C'est qu'ensemble, eh bien, et puis, la dernière pensée, eh bien, on est quand même le dimanche de Pâques, hein, c'est le jour de la résurrection, et si on annonce sa mort, on annonce sa résurrection, ça veut dire qu'aujourd'hui, le tombeau est vide, on avait une belle image tout à l'heure, hein, du tombeau qui était vide, ça veut dire que Jésus est vivant, que par son esprit, il nous parle, que sa parole, il nous réconforte, ça veut dire qu'il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, ça veut dire qu'il nous prépare une place, et quand cette place sera prête, il viendra nous chercher. Amen. Et ça, c'est l'espérance glorieuse que nous rappelons, et que nous devons vivre à chaque fois que nous nous unissons autour de la Sainte Cène. Amen. Alors pour conclure, et on va apprécier d'autant plus ce moment ce matin autour de la Sainte Cène, hein, nous qui avons donné un jour notre vie à Jésus, et vous qui peut-être n'avez pas encore fait cet acte de foi, cet acte de repentance, parce que la Bible nous parle, c'est un acte de foi et de repentance, eh bien, saisissez ces moments ce matin. Amen. Pour vous approcher de Christ, et de lui dire, eh bien, Jésus, je te demande pardon parce que je suis un pécheur et que sans ta grâce, je suis perdu, je suis condamné à la mort éternelle. Et ce matin, Pâques, c'est la trahison de Judas, ça ne veut pas être la mienne, Seigneur. Je veux au contraire, moi, eh bien, participer à tes bénédictions, à tes promesses. Et je te fais confiance désormais pour diriger ma vie, pour conduire ma vie, non seulement ici-bas, mais jusque dans la vie éternelle. Et j'ai mis cette dernière pensée, vous la connaissez certainement. Rien de terrestre ne subsistera dans l'éternité. Et puis j'ai mis des petits points et j'ai mis sauf la marque des clous et de la lance dans le corps de Jésus. Et j'ai mis la Pâque et Pâque parce que parfois on dit, c'est pas qu'on oppose, mais on dit, c'est vrai que c'est différent, mais il n'y aurait pas de Pâque sans la Pâque. Il n'y aurait pas de résurrection sans ce que Christ a donné sa vie à. Et la Pâque et Pâque, voilà, nous en rappelle la glorieuse réalité. Amen. Oui, il y aura la marque des clous dans l'éternité, il y aura la marque de la lance dans l'éternité, c'est encore ce qui reste d'humain, parce que tout le reste sera balayé, et d'une manière, alors, on dit ça avec des mots, hein, mais c'est tellement petit entre là, eh bien, on bénira, on restera dans sa présence éternelle avec grande reconnaissance et adoration. Amen. C'est ça. Alors que ce matin, eh bien, nous puissions chacun nous-mêmes nous positionner, Ouais, parce que Pâques, c'est aussi un moment où on se positionne et on veut surtout croire ce matin que chacun d'entre nous, nous pourrons dire, Seigneur, eh bien oui, je veux être avec toi, je suis avec toi, j'ai besoin de toi. Amen. Est-ce qu'on pourrait ce matin, bien justement, prendre encore ce temps autour de la Sainte Cène, hein, de manière là aussi solennelle, reconnaissance et enthousiasme également, dire Seigneur merci, merci pour le pain, merci pour le vin. Est-ce que spontanément, hein, quelques frères et sœurs, trois pourraient venir sur le devant ce matin avec reconnaissance, peut-être pour inaugurer ce moment de Sainte Cène, on pourrait chanter un chant, il me semble qu'il y en a encore quelques-uns. Et bien voilà, celui-là, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut la voir sur le vidéo de la croix, la grâce coule? Voilà, on a eu les paroles tout à l'heure. Et puis, pendant qu'on chante ce chant, eh bien, voilà, hein, quelques frères et sœurs, trois pourraient venir sur le devant pour présenter ce moment au Seigneur, puis prendre encore un temps de reconnaissance et d'adoration. Hein. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Amen. Quelle grâce!